Et oui, c'est la bande originale, une heure de bonheur totalement gratuit que je vous offre avec plaisir et sans aucune retenue. Au menu, Pascal Arbillot, Olivia Kotzebue, Bretman, Claire Chazal, Marc Lévy, Philippe Labro et la bande au très très grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Quand je pense à vous, à toutes les deux, je pense évidemment à vos carrières, mais je pense aussi à une dimension un peu plus musicale. Vous, Olivia, la première fois que je vous ai vue en vrai, c'était sur scène, dans les bulles de Claire Castillon, mise en scène de Marion Vernoux.
Ah, dis donc.
Et je vous avais trouvé d'une plasticité, d'une aisance, quelque
c'est
chose...
C'est pas ce que tu nous avais dit, non ?
Bah si, on se connaissait pas encore, c'est
ah,
pour
c'est ça.
Ça.
Ah,
ça d'une aisance assez insensée, et forcément, quand on vous regarde et quand on cherche un petit peu, on comprend pourquoi votre première idole, c'était plutôt elle.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm.
Si j'ai un enfant, c'est Gene Kelly qui me le fait. Gene Kelly est mort, donc laisse tomber.
Gene Kelly, votre première idole.
Et c'est vrai, et pour le coup, Marie-Cassie m'a fait un tout petit cadeau en me disant, bah, dis qui tu veux. Je dis, bah, moi, Gene Kelly, c'est vrai que depuis mes 3 ans et demi, c'est vraiment mon idole, quoi.
Ouais.
C'est l'homme. Oui, c'est vrai qu'en plus, moi, dans la vie, j'aurais pu faire un enfant avec cet homme. Il n'a peut-être pas été très présent, mais j'aurais suivi son tous ses tournages. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de regarder ce film. Je regarde peut-être une fois par semaine.
Ah bon?
Ah ouais, ouais. Ça me fait un bien fou.
Là, j'ai découvert Funny Face que j'avais jamais vu. Je ne comprenais pas dans Singing in the Rain pour le revoir.
Je n'ai pas compris cette réplique. Et Joe, comme une tarentule, je ne comprends pas cette phrase.
Vous avez fait longtemps
avec cette phrase extraordinaire.
Vous avez fait des claquettes pendant très très longtemps, en fait. Vous avez commencé...
Non, pas pendant très 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 longtemps, pendant à peu près 40 ans.
Non,
okay,
ouais,
de mes 10 à mes 25 à peu près.
D'accord. Bah,
c'est long quand
même. Ouais, c'est long, ouais.
C'est hyper long.
Arriver à 25 ans, c'est la moitié d'une vie, quoi, vous croyez quand même.
Non, parce qu'il fait de vous aussi une comédienne à part, c'est-à-dire que vous avez aussi un rapport au corps qui est très très particulier. On peut vous voir danser à la fin du film, mais pas simplement. Je vous ai vu dans Larguer récemment,
oui.
D'Héloïse Lang. J'ai trouvé ce film exceptionnel. Ah ouais. J'y allais. Je vous cache pas, un peu à reculons, je me
ah
dis
oui.
Oh là là, une comédie de filles.
D'ailleurs, elle a vu,
c'est terrible,
d'ailleurs,
hein,
d'ailleurs, elle a vu le film,
ça,
hein. Elle a vu
ouais.
le film de dos en plus.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, avec Camille Chamou et Camille Cotin et Miu Miu.
Ouais.
Et en fait, je suis sortie ouais. un vrai coup de cœur pour ce film.
Ah,
et on vous découvre là encore dans un rôle plutôt comique.
Oui, là, pour le coup, oui. J'ai le droit de faire
des
têtes. Alors non, elle n'est pas teubée, elle est lunaire, attention. Ça n'a rien à voir.
C'est quoi,
je ne supporte pas.
Non, mais Jérémy, là, attention, fonte.
Elle dit oui à la vie. Voilà,
ah bah là,
elle
oui.
n'a pas de
ouais,
jugement.
Mais à chaque fois, vous donnez un supplément d'âme à vos personnages, parce qu'il y, y a le rôle que vous interprétez, puis il y a la façon dont vous le faites. En fait, je trouve qu'il y a un truc dans votre corps qui est vraiment très, très impressionnant dans
ah bah,
ce que vous apportez au personnage. Et vous, Pascal, quand je pense à vous, je pense aussi à de la musique.
Merci.
Oui. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle.
Ah bon,
elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel.
Ah, pardon.
Bah oui, je sais. Bah oui, même pas. J'ai tissé 25 secondes.
Vous avez l'air étonné.
Mais pas du tout. Je suis tout à fait.
C'est Big Flo et Oli
bah ouais.
dans le clip de Pauline.
Ouais.
Et c'est vous, Pauline. Oui,
c'est moi.
Comment vous êtes retrouvés avec Big Flo et Oli, nos
alors,
deux rappeurs marseillais?
Dommage, dommage.
Dommage. Bah, en fait, c'est le metteur en scène que je connaissais du clip qui m'a
ouais.
appelé. Et le même jour, mon fils, quand il a entendu que je éventuellement proposé de tourner dans un clip de Big Flo et Oli que je connaissais pas vraiment. Elle dit quoi? Mais non, mais il faut trop que tu le fasses. Et donc je l'ai fait.
Il faut trop que tu le fasses.
Trop que tu le fasses. Pour mon fils, pour le metteur en scène.
Ouais.
Et aussi, je les ai rencontrés et je les trouve incroyables.
Ouais. Ouais.
D'humilité, ils sont bosseurs, ils sont gentils. Ils ont une formation classique, ils ont une.
Ah oui?
Ils bossent, ils ont chacun. Oui, ils font 2-3 instruments. Ils sont ouais. au conservatoire à Toulouse. Mmh. C'est des vrais bons petits gars. Et je trouve ça incroyable. Et moi aussi, j'avais pas d'a priori.
Vous,
mais...
vous n'avez aucun cliché sur les rappeurs normalement? Parce que là, vous avez l'air surprise que des rappeurs puissent connaître la musique.
Oui, c'est vrai, ça fait très cliché, très madame, très mémère. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je reconnais. J'ai pris un coup là dans la gueule. Ok. Ok, ok. Non, 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 mais on va. Voilà.
Ah non, mais Nagui, il sait recevoir.
Non,
je connais Pascal. Je connais Pascal et que c'est pas. Voilà.
Ah, c'est pas du tout ça, mais je sais pas pourquoi. Non, c'est parce que.
Du violon,
non,
les mecs qui font
non
du rap,
la réalité. Non, en fait, je parle pas de ça. C'est que dans le rap, dans le rap, à l'intérieur du rap, je trouve qu'ils sont très snob et très méchant les uns envers les autres. Ah, on va dire que Bigflo et Willy
sont
extrêmement sectaires.
Absolument, d'accord.
Et en fait, je dédouanais tout le monde de ce qu'on peut dire. Ouais.
Enfin, Pascal, ça peut te rassurer, dans le monde du hard rock...
C'est pareil.
C'est-à-dire que dans le hard rock, il y a ceux qui sont pour le métal, il y a ceux qui sont pour le hard rock.
C'est chiant.
Et les enfants adorent cette chanson, des enfants de 6 ans qui
sont en boucle sur la meuf. Mais tu sais, dommage, c'est la chanson la plus cool, mais le vrai rap, en fait, dans leur album, c'est mieux. Donc, ils me sortaient toutes les autres chansons. Donc, même mon fils a intégré le fait qu'il y a un rap cheesy, sweet, gnangnan, et un rap... Ah ouais, parce que je suis pas si vieille non plus que ça.
Cheesy, sweet.
Cheesy, sweet.
C'est pas un parfum de chips.
Attendez, maintenant, je vais dire dur, dur, et carrément. Pour être vraiment dans les années 80. Allez, au revoir.
Et puis, qu'à dire wesh, wesh.
Et puis, wesh, wesh.
C'est ça, et on aura fait le tour.
Ah non, il manque en scred. Je vais partir en scred, là, maintenant.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Usher avec Yeah. Vous écoutiez ce titre en mettant en scène...
Ah ben oui.
Au théâtre de l'Atelier,
bien
si j'ai bonne mémoire.
Avec Isabelle Carré, Dominique Pinon, on dansait tous là comme des malades là-dessus, bien sûr.
C'est l'hiver sous la table de Topor. C'est votre première mise en scène.
Ouais.
Donc là, on entend avec d'autant plus d'acuité ce que vous venez d'expliquer à Nagui sur ce savant mélange, être la mise en scène, la direction des comédiens. Mais vous recevez 6 Molières, la première mise en scène, comme ça on y va tranquille.
Elle était géniale. Moi, je me souviens, j'étais à l'atelier. Elle était géniale.
Alors
cette
là, l'écriture était fabuleuse.
Le décor,
mais c'était beau.
Meilleur comédien. Meilleur comédien pour Dominique Pinon, meilleure comédienne pour Isabelle Carré, ouais. Meilleur spectacle du théâtre privé, meilleur décor, meilleure lumière. Est-ce que comme pour iPhone, après on se dit qu'est-ce que je fais
au théâtre ? Quelle pression pour la deuxième mise en scène.
Ouais. Qu'est-ce que je fais ?
C'est sûr que... Non, mais vous avez raison, mais parce qu'il y a aussi un lâchage total. Une chose presque... Que vous ne maîtrisez pas et qui est vous complètement.
Est-ce qu'on retrouve cette vérité de la première fois ? Est-ce que ça, c'est pas ça la crainte de se dire... j'ai fait ça avec d'une certaine façon, une forme d'insouciance.
Je pense qu'il n'y a pas tellement de loi. Il y a une façon d'être conscient et d'être conscient qu'il faut lâcher. D'être conscient qu'il faut être un peu inconscient. Mais c'est plus difficile. Mais ce que j'entends sur iPhone, à mon avis, le deuxième album, il va beaucoup plus cartonner.
Comment ça se passe sur une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est vous qui décidez de mettre en scène la pièce ? Est-ce que c'est un producteur qui a la pièce et qui vient vous voir en disant est-ce que vous voulez le mettre en scène ? Dans quel ordre ça marche ?
Alors pour le théâtre, c'est plus moi qui initie.
Qui a fait la démarche ?
Ouais. Pour le cinéma, ça s'est presque toujours passé à l'envers, à part les premiers films.
Par exemple, pour l'hiver sous la table, c'est vous qui avez dit je vais mettre à la mise en scène.
Ouais. Oui. J'avais un petit peu peur de la mise en scène, mais en fait, c'était de théâtre. Mais finalement, c'était évident. J'avais juste. C'est l'envie qui a primé, quoi.
Et c'est vous qui avez eu la bonne idée de choisir Isabelle Carré et Dominique Pinon.
Absolument, j'ai bien insisté pour Dominique Pinon. Isabelle Carré a été un peu plus connue. Dominique était connue, mais uniquement du théâtre subventionné. Ouais. Il n'avait jamais fait de théâtre privé. Et on m'avait dit,
du cinéma, enfin il avait été
avec... Oui, mais il n'avait pas fait de théâtre privé. Les gens ne connaissaient pas dans le théâtre privé.
Ouais.
Et donc,
super
il y avait un
comédien.
Peu les...
Oh bah ouais. Super comédien. Enfin,
et
les
donc
deux,
ils
deux
étaient top. Ah là là, mais toute la bande. Mm. On a envie d'ailleurs de le reprendre, mais tout le monde, les cinq acteurs ont envie de le reprendre le spectacle.
Pourquoi vous le reprenez pas ?
Je sais pas.
Ils sont tous.
On va le refaire.
J'imagine que tout le monde est sur des projets différents.
Oui,
Isabelle Carré est au théâtre là avec Baby, ou à moins que ce soit arrêté. D'ailleurs.
Non,
c'est peut-être fini maintenant.
Ils ont joué beaucoup, ils ont marché beaucoup.
En 2013, toujours Dance Music pour Zabou Whiteman.
Ah ouais. L'époque des flash mobs. Non mais bon.
C'est vrai, très flash mobs. Ah ouais.
C'était l'époque des flash mobs.
Totalement.
Non mais c'est joyeux ça, non ? On n'a pas envie de danser.
On a envie de bouger tout de suite, ouais. Black Eyed Peas.
Et 2013, c'est le système Ribadier à la Comédie Française. Vous inaugurez un peu comme ça, à une sorte de cycle où la Comédie Française s'ouvre à d'autres metteurs en scène. Et là, sur scène, c'est Laurent Lafitte et Laurent Stocker notamment. Deux comédiens aussi assez extraordinaires. Donc cette pièce de Feydeau, qu'est-ce qui fait qu'on se confronte à l'institution de la Comédie Française aussi ?
C'était Muriel Mayette qui m'avait appelée. Elle avait vu Des gens d'après Depardon, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre d'après des documentaires. Et elle m'a dit...
Laurent venait d'entrer, Lafitte venait de rentrer au Français, et elle me dit ah, j'aimerais bien qu'on fasse un truc avec encore du documentaire, mais ça n'a pas été possible. Et puis je me suis souvenue que Laurent avait passé, avait eu le conservatoire avec le système Ribadier, et je dis mais et j'ai vu que ça n'avait jamais été monté au Français, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'était très ah, ça a été super, ça a été génial. De toute façon, ils sont exceptionnels, ouais, ces acteurs là. Ouais. Sont dingues.
Et c'est une pièce importante, je crois. Enfin, Fedo, c'est un auteur important pour votre père.
Ah oui, très important. Mais ouais, 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 c'était, bah, c'était un acteur qui jouait beaucoup, qui s'amusait à jouer avec ses potes et qui faisait des dialogues comme ça en rigolant, en déconnant. C'était une manière de travailler très, très fun.
Ouais, et puis c'est un personnage fantasque, Fedo.
Ah oui, et dingue, pour le coup, vraiment dingue.
Complètement dingue.
Fou, hein, quand même. Ouais.
Est-ce que c'est agréable de mettre en scène Fedo alors que tout est tellement écrit
justement,
dans les didascalies?
Bien sûr. Bien sûr, c'est un pied pas possible. C'est absolument dément, avec des acteurs aussi précis et dingues à la fois. C'est-à-dire, c'est trouver sa liberté dans la contrainte, c'est le mieux, quoi. C'est le mieux.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Alors, c'est vrai que ça me correspondait, je crois. Enfin, en tout cas, ça correspondait au moment où j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas, effectivement, un roman. C'est pas non plus un récit. Ce sont des impressions de vie à un moment de fracture, quand la soixantaine arrive, que les parents disparaissent, que ben, j'ai quitté assez brutalement TF1.
Et des hommes vous quittez aussi brutalement.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a tous ces prismes, que ce soit vos histoires d'amour, que ce soit vos doutes, que ce soit l'héritage ou les phobies de votre maman. Moi, j'ai été extrêmement ému et touché de l'écho des phobies de votre maman et qui reprenait
qui
une autre dimension. Oui, qui se transmettent dans les gènes. Au point d'être troublé pendant un 20 heures, d'avoir un sentiment de perte même d'équilibre.
C'est nombreux 20 heures.
Voilà, ouais. C'est ça. Et puis aussi, c'est le mot fragment est bien choisi parce qu'à la fois, ce sont des petits bouts comme ça, des petits billets d'humeur sur des moments de votre vie, et en même temps, il y a de véritables fêlures, de véritables cassures.
Mais en fait, je n'ai écrit ce livre, contrairement à ceux que j'avais écrit il y a 20 ans, où c'était vraiment plus pour laisser une trace, enfin pour faire quelque chose d'un peu moins superficiel peut-être que la télévision. Là, ça n'a été
comme
que
l'institutrice en 97.
Oui,
par
j'avais
exemple.
Écrit deux romans et une biographie. Là, c'était autre chose, c'était une nécessité personnelle, et ces fragments, ces chapitres qui sont au fond des moments impressionniste de la vie, n'ont été écrits que sous le coup de l'émotion, de la douleur, du drame, quand il s'agit de perdre un parent. Donc, ça n'est qu'un élan de sincérité, ou que des élans successifs, que j'ai regroupés. J'avais écrit aussi au moment de la naissance de mon fils, j'ai écrit aussi effectivement au moment de séparation, mais rien n'est reconstruit, rien n'est rethéâtralisé ou remis en perspective. En fait, je n'ai pas cherché à créer une image, j'ai juste cherché à dire ma vérité à ce moment-là.
Et ce qui est assez touchant, ce qui m'a moi beaucoup touchée, c'est la sincérité. C'est-à-dire que ça aurait pu être des écrits que vous destiniez à votre tiroir. Je n'ai pas eu la sensation, en tout cas, que vous tentiez de construire une image de vous pour une forme de postérité qu'on pourrait soupçonner chez un être de télévision, un être cathodique que vous avez été pendant très très longtemps et que vous êtes
ni
encore...
Ni même de se venger d'une quelconque agressivité de qui que ce soit d'autre.
Il y a cette parole, j'ai eu l'impression qu'on parlait à mon cœur, à moi, et qu'on ne cherchait pas à me dire, parce que vous pourriez tenter de dire que voilà, un homme important dans votre vie vous a quitté, c'est pas forcément quelque chose de simple à dire, et puis on est toujours soucieux de l'image qu'on renvoie, et se montrer dans cette position un peu vulnérable, c'est assez rare pour être souligné. Souvent on en fait quelque chose, ou on essaye d'en faire quelque chose, de faire une figure de victime, et là c'est pas le cas. Quelque chose de très, je trouve, de très honnête.
En fait, je n'ai jamais eu la sensation de me défendre d'une image, c'est-à-dire que j'ai vécu cette vie, et c'est ce que je raconte, en me moquant de l'effet produit. Je parle de ma vie personnelle, de ma vie privée, non pas ma vie professionnelle, parce que j'étais évidemment très soucieuse de l'effet que ça produisait et de ce qu'on pouvait dire, et je le comprenais très bien, et il y a pu y avoir des erreurs, il y a pu aussi y avoir des critiques
injustes. Ça s'appelle l'exigence dans le boulot.
Et puis on peut être jugé professionnellement, ça me paraît tout à fait logique, et j'ai bien conscience d'avoir produit cette image, peut-être un peu lisse à certains moments, mais c'était dû à ma fonction. Je devais être neutre quand je présentais un journal et je comprends que j'ai produit cette image. Mais dans ma vie privée, et c'est donc ce que je livre là, puisqu'il y a ce moment un peu de fracture, un peu de douleur, je n'ai absolument pas cherché à faire ce que dit Leïla. Je n'ai pas du tout cherché à construire une image. J'ai pensé que la sincérité, au fond, était irréprochable. Enfin, dès lors qu'on était sincère, personne ne pouvait vous reprocher quoi que ce soit.
On est invincible,
ça ne peut, peut pas passer pour une forme de faiblesse.
Et ça m'est égal. Enfin, en fait, ça m'est égal. Moi, parfois, moi souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, ce que j'aime chez les gens, c'est bien sûr leur force, mais c'est leur faiblesse, c'est leur fragilité, c'est voir qu'ils doutent, c'est voir qu'ils se posent des questions, qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je crois que c'est ce qui nous intéresse tous. Donc, dès lors qu'on montre des faiblesses, et Dieu sait si j'en ai, des inquiétudes, des angoisses, des pertes d'équilibre, c'est ce que je dis. Je pense que, oui, je suis invincible, en fait. On peut rien me reprocher.
Non, mais de donner l'image, justement, vous êtes dite invincible, d'une femme forte qui a tant été quittée et qui reconnaît ses faiblesses.
Et... Mais je pense que ce que les gens, ce qu'on a regardé, je suis d'ailleurs très touchée, très heureuse de l'accueil et puis de ce que me témoignent les gens, ils ont vu que c'était au fond quand même une force d'avoir une longévité dans un média clairement puissant, de faire ce métier qu'on aime, que j'ai aimé passionnément. Il faut bien à un moment se dire qu'on n'a pas totalement raté, qu'on a réussi ça, que ça reste malgré tout. C'est ce que les gens ont vu extérieurement. Et après tout, s'ils voient mes faiblesses d'être humain, ça m'est égal. Enfin, ça me constitue.
C'est une force d'admettre ses faiblesses.
Alors, et sans doute.
Moi, si j'en avais, je ne sais pas si je serais capable de parler. Je ne sais pas si je serais capable.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux, bien mieux après le live de iPhone, Like Boys.
Na 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 na
Surprise!
C'était iPhone sur France Inter avec Like Boys. En live, bien sûr, dans la bande originale. Ah bah ouais, c'est Alison Wheeler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah la voilà.
Bonjour à tous, bonjour la France. Dimanche, c'est la fête des mères. Jeudi, pour que vous ayez le temps de prévoir autre chose qu'un bouquet Interflora, un diplôme de super maman acheté chez Jiffy à la dernière minute, ou autre merde pseudo-artistique en pâte à sel de gros radin que vous êtes. Allez, faites un effort, c'est à moindre des choses, sauf si votre mère est une connasse antisémite, auquel cas, là, vous avez le droit de lui offrir des colliers de pâte à sel, voire un collier anti-puce. Pour l'occasion, j'ai décidé de lui offrir un cadeau qui s'achète pas. Une chanson avec un invité exceptionnel. À mes yeux, c'est la femme moderne. Tout l'inverse de Stéphane Bern.
Bonjour.
Elle a eu le César de la meilleure césarienne en 86. Dieu m'a donné la foi. Elle m'a donné la vie. Elle est comme une mère pour moi. Merci d'accueillir ma mère.
Maman Wheeler.
Claire me regarde, mais si, si, c'est sa maman.
C'est sa maman.
Ouais. Ah, je t'assure.
C'est raconte-moi comment tu m'as eu. Je veux savoir comment j'étais conçue. Si c'était beau ou après une cuite.
En fait, ton père avait une énorme
non.
voiture.
Ah, d'accord. C'était comment ton accouchement? Est-ce que j'étais belle en sortant? Comment t'as trouvé mon prénom à l'hôpital?
Je regardais Melrose Place, j'étais sous péridurale.
Ah bon? Dans l'océan de la vie, tu es mon canot et kayak. I love you to the moon and back. Dans l'océan de la vie, tu es mon canot et kayak. I love you to the moon and back. Dis que t'étais fière de moi, maman. Est-ce que j'avais un bon comportement? Est-ce que j'étais populaire à l'école?
On t'appelait roi cutane, tu sniffais de la colle.
Mais
non.
Maman, merci de pas m'avoir congelée. Merci aussi de pas m'avoir oubliée. Dans la voiture en plein soleil.
Tu feras pareil quand je serai vieille.
Maman, c'est grâce à toi que j'ai des valeurs. Que je braque pas des banques, que je suis pas dealer. Tu dis toujours n'accepte pas de bonbons d'inconnus. Sauf si c'est des chauffeurs Uber. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais les épinards, c'est moins bon sans le beurre. Si un homme te suit tard la nuit, te traite de pute.
Vise entre les jambes, lacrymo et percute.
Si seulement je pouvais t'avoir tout le temps dans mon sac. I love you to the moon and back. Si seulement je pouvais t'avoir tout le temps dans mon sac. I love you. Appelle le soir parce que ton ordi bug. Que tu jures comme Booba, on dirait une thug. Que tu me prends pour le SAV de Darty.
Moi je reste le SAV de ta vie.
Quand tu m'as bien fait manger tes bons petits plats. Que t'as vidé le frigo dans mon estomac. Et tu me demandes d'un air abattu.
Dis donc, t'aurais pas pris du cul.
Et quand je te laisse, que je dois partir de la maison, qu'on chiale toutes les deux comme si j'allais en prison. Je mérite le César de meilleure actrice dans un rôle con. Celui de celle qui n'a jamais coupé le cordon. Si seulement je pouvais t'avoir tout le temps dans mon sac. Seulement je pouvais t'avoir tout le temps dans mon sac. I love you to the moon and
I love you too.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Sanji a une motivation. Sanji, il a créé un réseau social parce que lui, il considère que la grande arnaque contemporaine, c'est d'avoir appelé les réseaux sociaux alors que ce sont des réseaux asociaux.
Et ce sont des réseaux antisociaux, parce que c'est malheureusement toute la... Je ne vais pas faire de cours de politique, mais aujourd'hui, hier, Facebook est un outil de déstructuration et de dissociation. Enfin, c'est terrible, ce que je veux dire. La haine véhiculée sur les réseaux sociaux et entretenue sur les réseaux sociaux.
Pardon, il y a deux choses. Il y a plutôt Twitter, qui est propre à la haine et à la facilité, et à l'agressivité et à la méchanceté. Facebook, à la base, c'était un peu comme votre héros, plutôt un plan de drague. C'était même initialement pour noter les filles à la fac, quoi. Ouais. C'est-à-dire leur donner des notes avec elles sont mignonnes, elles sont pas mignonnes, on a envie de sortir avec elles, on n'a pas envie de sortir avec elles.
Un truc de macho.
Ouais, voilà. Un truc d'organisation, c'est tout.
Et c'est devenu ensuite chacun crée son réseau d'amis ou croit avoir des amis.
Mais en fait non, malheureusement. Chacun,
voilà. Non, mais d'accord.
Oui, mais là où c'est encore plus grave et on n'en parle pas, c'est la façon dont Facebook permet d'influencer le comportement social. Regardez, aux États-Unis,
y compris l'élection de Donald Trump.
Ouais. Oui, mais c'est quoi l'histoire de l'élection de Donald Trump? C'est qu'en fait, grâce à Facebook, des sociétés privées ont pu identifier les gens qui correspondait à un profil politique hésitant, c'est-à-dire je vais voter pour l'un ou je vais voter pour l'autre, et à partir du moment où vous aviez été identifié, vous receviez systématiquement dans votre flux d'informations une quantité massive de fausses informations qui allaient orienter votre jeu. Donc je parle de la manipulation.
Voilà. C'est ça.
Pour revenir au roman, Sanji, lui, il veut créer un vrai réseau social, c'est-à-dire un réseau où les gens se rencontrent non pas parce qu'ils se ressemblent, mais au contraire parce qu'ils sont différents. Et lui, il est convaincu que si on s'intéresse à la différence de l'autre, si on l'apprend, eh ben on a une énorme chance de sortir des préjugés. D'ailleurs, il balance 2-3 fois, il y a une conversation avec Chloé, où elle lui fait une réflexion sur l'Inde, et il lui dit « Non, mais je vous en veux pas, de toute façon, dès qu'un occidental voit l'Inde autrement que par le prisme de la vache sacrée... »
Du turban sur la tête.
Et du turban sur la tête, voilà, donc c'est ça le contexte de cette comédie.
Votre livre est sorti là, il y a 2 jours, à peine, il est tout chaud, et pourtant, votre héros construit son réseau social autour du scandale Facebook. C'est de la prémonition de votre part d'avoir écrit ce réseau anti-Facebook dans votre livre au moment où ça a explosé dans le monde entier. Vous n'avez pas écrit le livre il y a 15 jours quand même.
Ah non, mais parce que moi je me souviens par exemple quand Facebook a mis l'application Messenger, c'est-à-dire quand ils ont dissocié, vous savez, l'outil de Messenger de l'outil de Facebook. Je m'étais dit, mais pourquoi ils font ça? Et à un moment donné, il suffisait de lire, quand j'ai vu apparaître sur mon téléphone portable ce que Messenger me demandait d'autoriser. Enfin, écoutez, je vous fais une petite anecdote pour revenir. Imaginez que vous allez à la poste. Et vous dites à la poste, bonjour, je voudrais un timbre. Alors, je sais pas, en France, ça vaut un timbre classique. Bon, je voudrais un timbre et j'ai une lettre à poster. Et là, le facteur vous dit, le type au guichetier vous dit, oui, d'accord, merci. Vous n'avez pas fermé la lettre encore, hein, j'espère, parce que la condition générale de la poste, pour poster une lettre, c'est que, il faut que vous me donniez. D'abord, je la lis. Ensuite, évidemment, je vais stabiliser tous les mots qui m'intéressent, parce qu'il y a un certain nombre de mots dans votre lettre qui, en fait, caractérisent votre comportement, et on en a besoin. C'est pas pour être méchant, j'ai juste besoin, parce qu'après, à la poste, va vous vendre des tas de trucs, et donc j'ai besoin de savoir. C'est à votre mère que vous écrivez ? Ouais, très bien. Alors non, parce que je suis obligé de... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde combien de fois par an vous écrivez à votre mère, parce que ça nous permet de savoir si vous aimez un peu, beaucoup, moyennement votre mère, parce que du coup, ça nous évite de vous envoyer des pubs pour acheter des cadeaux à votre mère. C'est fini avec votre maîtresse ou pas? Parce qu'on a vu que vous achetiez des fleurs que vous envoyez pas à votre femme. Donc ça, c'est votre facteur qui vous dit ça. Et là, vous lui dites,
je
voulais juste envoyer ma lettre. Ouais. Ah bah oui, monsieur, mais ça, c'est les conditions générales de la poste. Moi, j'avais quel âge? 89, j'avais 28 ans quand le mur de Berlin est tombé.
Ça vous rend dingue, ça, apparemment.
Non, mais je vous dis juste ça. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. J'avais 28 ans quand le mur de Berlin est tombé. Quand le mur de Berlin est tombé, on a découvert que la Stasi, qui était la police est-allemande, employait des dizaines de fonctionnaires pour épier la vie privée du peuple est-allemand. Et ça a déclenché en Occident un effroi absolu. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, la définition d'une dictature, c'est ça. C'est quand, je dirais, des gens qui sont étrangers à votre vie privée épient votre vie privée.
Savent tout de votre vie privée.
Je pense que la Stasi...
Et on s'est dit, ça n'existait que à l'Est, et en fait, on l'a créé...
La Stasi ne savait pas, à mon avis, 10% de l'information que Facebook détient sur vous. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'information circule sur Internet. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une vraie démocratie quand nous n'avons plus la possibilité technique de prendre connaissance d'une information sans qu'un organisme privé vienne vérifier quel est le mot que vous avez lu, à quelle vitesse vous lisez, quelle est la
tendance. Parce qu'on se rend pas compte, parce que c'est fait de façon presque on ludique, sent... et c'est pour c'est vous insidieux. Aider, on vous donne la main.
Non, mais c'est comme il a raison, c'est comme les conditions générales oui. que personne ne lit. C'est-à-dire à un moment donné, on va sur Google, il y a un pop-up avec attention, les conditions générales ont changé. Oui. Et il y a 10 pages, tu accepté. Déroules toutes
et
les pages.
Maintenant, j'ai même vu qu'il te proposait, si vous voulez voir les conditions générales, cliquez ici, sinon cliquez sur suivant tout de suite.
Ce qu'on vient de vivre avec le scandale de Cambridge Analytica aux États-Unis.
Donc de Trump.
C'est le principe, c'est peu importe.
On n'est pas là pour parler de nos amis non plus. Donc.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient de voir que nos données maintenant sont aussi utilisées pour influencer nos comportements politiques, nos goûts et nos divisions. Enfin voilà. Pour revenir au roman, Sanji est très conscient de ça et Sanji, il a envie de créer, il s'est mis en tête dans son utopie de créer un réseau social qui va faire en sorte que les gens se rencontrent pour apprendre leurs différences. Au lieu de se détester, et d'ailleurs il a cette phrase d'une naïveté totale, mais moi à laquelle je crois énormément, il dit « mais est-ce que tu imagines le devenir d'un pays où les gens commenceraient par s'écouter avant de s'invectiver ?»
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment bien dans cette bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Delgré et Monsieur le Président. Monsieur le Président, chanté par Rod Delgray dans la bande originale. Tiens, justement, j'aimerais bien qu'il m'appelle comme ça, Président. C'est le petit Pastureau.
Derrière votre apparente sympathie et vos yeux pétillants de malice, tels ceux de Laurent Wauquiez quand dans la boutique Guy Cotten, il craque sur une nouvelle parka de pêcheurs qui pue la dorade. Vous êtes peut-être un être vil qui rêve de rouler en Hummer sur une grille de chauvin afin d'éliminer toute concurrence à votre jeu télé. Leïla, contrainte socialement de surjouer la carte de l'intellect parce qu'elle est sur France Inter, se dit peut-être à l'instant, purée, j'ai une de ces envies de m'écouter un bon Émile et Images. Oui. Allez, rien à taper, je postule à Chant de France. Oui. Il est impossible de savoir réellement, derrière nos sourires et nos t-shirts Juliette Armanet, t-shirt Michel Sardou, pour moi qui cherche le licenciement abusif de la radio publique afin de prendre une blinde au prud'homme, ce qui nous anime, quelles sont nos émotions? Ainsi, Jérémy Crédville, qu'on voit faire le con chez Arthur en slip licorne, c'est comme le slip kangourou mais avec une corne, si bien que si on oublie de l'enlever avant le coït, on perfore la personne dans le sens de la longueur et qu'elle râle puisque les gens sont jamais contents. Jérémy est peut-être un romantique absolu qui n'a pas eu la chance de n'être sous Musset mais sous Musso et qui doit faire triper la ménagère s'il veut remplir ses salles. On ne sait rien des émotions intérieures des autres, sauf en Chine, ce pays surpeuplé qui nous a donné le menu B3 et la version hardcore du macronisme qui consiste à bosser tout le temps et gratos. En effet, la Chine a inventé un casque, hein, qui ressemble à celui en cheveux que porte Christian Estrosi quand chez Camille Alban, il s'est fait gonfler chaque bulbe à la brosse soufflante et qui détecte les pics émotionnels chez les salariés. C'est-à-dire qu'on le met sur soi, on fabrique des sweatshirts ou des jouets pour chiens qui font pouette-pouette, donc on ne ressent rien, sauf si on est soi-même un chien. Auquel cas, on remue la queue et on bave au premier pouette-pouette. Tel Philippe Manœuvre quand sa femme met Satisfaction des Stones sur la platine, mais avec plus de poils et moins de cuir. Dans ce cas, le travailleur ne ressent rien, hein, sinon de l'ennui, ce qui est la norme de 99% des jobs, sauf dans celui de Christophe Castaner, parce qu'il consiste juste à dire que Macron c'est Jéhovah avec l'air exalté du tuffeur sous exta. Mais si le salarié, par exemple, ressent du stress, eh bien, le casque le signale au chef qui se dit « Oula, Kevin !» J'imagine que les Chinois aussi s'appellent Kevin, comme en Californie ou dans le Pas-de-Calais. « Oula, Kevin se sent mal. Je le sens aussi stressé que Christopher Froome quand il n'a eu ni sa piqûre de 16h02, ni celle de 17h27, encore moins celle de 18h40. Je vais le mettre à un poste moins critique, un truc qui sert à rien, comme premier secrétaire d'Europe Écologie, les Verts. »
Bon, est-ce que ce casque qui est mis du capteur repère toutes les émotions?
Oui, par exemple, la colère. Hein. Si un salarié chinois se met en run, comme le responsable du pressing de Bernard-Henri Lévy quand l'autre revient de 14 jours dans le sable à Alep et qui lui dit « Coco, voilà mes chemises, je les veux bien blanches pour demain », et ben le casque le dénonce. Et il détecte aussi la dépression. Vous mettez ces casques à tout le Zénith de Paris pendant le concert d'Eddie Depreto, les 5000 sonnent en même temps et les Chinois débarquent pour dire à Depreto « Bébé, t'es gentil, mais tu nous plombes, dégage, on fait rentrer Mika ». Alors, une société de transport de Shanghai a même équipé ses conducteurs de train de casquettes à capteurs. Hein, comme ça, si l'un d'eux est moins concentré, hein, parce qu'il rêve qu'il est français et qu'il discute à la cool avec ses potes dans le local Sudrail en mâchonnant des merguez, et ben, la casquette bip et le conducteur est remplacé par quelqu'un de plus efficace. Parce que le truc, c'est ça, c'est de localiser les mauvais travailleurs. Hein, toute personne bossant moins de 24h30 par jour ou venant de regarder sur YouTube une vidéo de Martine Aubry vantant le partage du travail, on la vire pour mettre à la place quelqu'un de plus fort, plus docile, avec moins d'émotions. Hein, Christine Angot en Chine, dès son premier passage télé, la chaîne lui aurait dit « Tu sors de la loge, on t'enfume comme on le fait avec les taupes, et tu nous fais la plus belle interview de Francis Huster jamais réalisée. Je veux qu'il cite Sacha Guitry 7000 fois, sinon on te remplace par Laurent Veil, qui en 35 ans d'interview de star n'a pas haussé la voix une seule fois. » Alors derrière ce casque à capteur, eh bien, il y a le pouvoir chinois, hein, qui finance son développement dans le but de créer une armée de petites mains qui ne ressentent plus rien, avec le même regard vide que celui de Manon des Marseillais de W9 si on venait de lui révéler l'existence de la chaîne Histoire. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça a déjà permis de réaliser plusieurs millions de dollars de profit. Ce sont les derniers communistes qu'on a dans le monde, mais ils ne pensent qu'au blé. Alors ils auraient pu prendre des robots, hein, mais ça coûtait trop cher. Et avec l'intelligence artificielle, les robots commencent à ressentir des trucs. Hein, dans 20 ans, votre presse agrume connectée vous dira « Non, je me sens pas bien, j'en veux pas de ton orange, laisse-moi, j'ai la migraine. » Et on se retrouvera à décapsuler une pelle forte à 7h du matin, la technologie va faire de nous tous des Belges. Hein, alors que l'humain, lobotomisé, pressurisé, contrôlé H24 par sa casquette. Vous imaginez si celle de Booba faisait ça, à chaque fois qu'il virait une billatche, ça biperait. Hein, l'être humain, lui, eh bien, est corvéable à merci. Nous, ici, bah, on ne sait pas qui est stressé, qui est énervé, qui est fatigué, qui est un psychopathe, Daniel Morin. Et c'est très bien comme ça.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Alors ça, c'est la grande phrase.
Quoi?
Vous y étiez pas.
Mais
ça,
non,
c'est
mais...
la... Ouais, non, t'y étais pas. Bah, ça, c'est super sympa.
Si
on peut... Non, mais si on peut parler des trucs où on était là, on va pas dire grand chose. Hein, voilà. Non, hier, j'ai été chercher les chouquettes ce matin. Je peux en parler ou pas, Nagui?
Oui,
ne regardez pas avec ce petit ton-là.
Ne regardez pas avec ce ton-là.
Voilà, voilà. Vous allez perdre la moitié de l'équipe avec ce jeu-là. Hein. Ouais, on était tous nés dans les années 80 avec Leïla et Marina. Notre premier souvenir, c'est France-Brésil 98. Donc voilà. Donc, j'essaie d'en faire. Hein. Vous avez bien fait d'inviter Philippe Labro. Alors, je vais pas donner l'âge de Philippe, mais bon, un indice, c'est le même que le Tarn. Tu l'as pas vu, mais c'est vrai. Mais je suis bon en département. J'ai bon, Philippe, ou pas?
Tarn-et-Garonne, mon pote.
Tarn-et-Garonne. Oui, ah. c'est son quartier, c'est Tarn-et-Garonne.
Montauban, Tarn-et-Garonne.
Non, mais je trouve ça fou de dire ça, Nagui. Tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Très bien. Je suis impatient de vous voir face au président Macron. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, quand le mur de Berlin est tombé, il avait 11 ans. Vous, Nagui, ça faisait déjà 15 ans que vous bossiez. 89. Bon, parce que Nagui a commencé très jeune, donc forcément ça. Non, mais j'y étais pas, je peux pas en parler. Depuis quand faut s'y connaître pour pouvoir donner son avis sur un sujet? Non, mais c'est vrai. Regardez, rien qu'autour de cette table. Non mais je demande, monsieur. Regardez, la liste des 23 de l'équipe de France de foot pour le mondial. Tout le monde donne son avis. Alors bon, les commentateurs sportifs, les sportifs eux-mêmes, je veux bien, mais François Hollande, vous avez entendu, qui a regretté l'absence de Dimitri Payet.
Il est blessé en même temps, Payet.
On a regretté l'absence de l'évolution de l'emploi. François, voilà, t'as eu 5 ans. Bon, bref, non, mais voilà. Non, franchement, s'il faut avoir vécu les choses pour avoir le droit d'en parler, ça va limiter nos chroniques. Parce qu'une chronique sur le balto, c'est sympa. Deux, à la limite, c'est bien. Ça fait comique de répétition, mais après Daniel il va tourner en rond, ça c'est pas évident. Puis ce truc d'avoir vécu les choses ou de s'y connaître pour en parler, ça va quoi. Le seul qui pourrait à la limite parler de tout, c'est un journaliste de BFM TV. Bah, les mecs ils sont envoyés partout et tout le temps à toutes les sauces. La neige, la canicule, l'enterrement de Johnny, les manifs, les matchs de foot, l'élection de Macron, le panari de mon père, le brushing de ma sœur, ça va. Non mais c'est vrai, c'est formidable d'avoir dit ça, Nagui. S'il y a des étudiants en pleine révision du bac, vous emmerdez pas sur l'histoire. Vous dire ah non, désolé, la Seconde Guerre mondiale, j'y étais pas. Voilà, je préfère pas en parler. C'est sur Inter que je l'ai entendu. Oui, bah, jurisprudence Nagui, voilà. En tout cas, je suis
salaud. Mais non, mais... t'es un enfoiré parce que c'est
bien, ça.
De quoi?
Tu m'as filé la phrase.
Mais pas du tout.
Je chien, j'ai le document.
Hein? Il y a aucune trace. Je l'ai pas envoyé par mail.
Ne me fais pas passer pour que je ne suis pas.
Ouais, c'est ça. En tout cas, Philippe Labro, bonne émission. Un conseil, malgré tout ce que je dis, attendez quand même d'avoir vécu cette émission avant de nous donner votre avis. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, ou pas.
On me met en contact avec un militant qui vit dans la clandestinité parce qu'il est poursuivi par la police, et je l'interroge dans une cave qu'on me prête. Tout ça, c'est très,
comme
très
dangereux. Comme dans les films, hein.
Oui, c'est très dangereux.
Comme dans les films,
oui,
non, mais c'est...
Comme dans les films, oui, mais j'ai toujours adoré ça. ma vie est un film. Et donc, j'en sors un texte qui, quand on le relit aujourd'hui, est absolument fascinant, où il raconte, effectivement, la première personne, son mai 68, qui n'est pas rien. Ça fait au moins 20 à 30 pages dans le bouquin. Bon. Et quelques années plus tard, je rencontre le patron de Libération, Serge Julie. Je lui dis, mais c'était donc toi. Et c'était lui, effectivement.
Vous l'avez tout de suite reconnu,
oh,
tout de
bah
suite
oui,
remis
sûr,
en le voyant.
Bien sûr. C'est un type formidable, Julie. Hein.
Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a tous les angles de vue. On a l'angle de vue des étudiants, l'angle de vue des professeurs, l'angle de vue du gouvernement, des personnages d'État, l'angle de vue des journalistes, l'angle de vue des syndicats, des groupuscules, presque des voisins même du quartier, parce que ça a été une guerre de tranchées dans le quartier latin en particulier. On a aussi ce qui s'est passé à Nanterre, puis il y a même, c'est ça qui est le plus surprenant dans ce travail, parce que vous dites c'est à chaud, on était sur le terrain, on allait interviewer, relater ce qui se passait, mais il y a un sacré recul qui est pris, recul que l'on a fait ici même à ce micro avec Patrick Rothman et sa fille Charlotte, en disant mai 68 ce n'est pas que le mois de mai petit 1, ce n'est pas que la France, et c'est même pas que 68. Et vous le faisiez déjà à cette époque, ce travail de dire, il y a le Vietnam aussi qui est dans cette histoire, il y a les États-Unis, il y a l'anti-américanisme,
ou
en tout cas, non mais oui, ou la défaite de l'américanisme avec le Vietnam.
Mais c'est une année mondiale, hein. C'est une année globalisation, si j'ose dire, parce que au même moment, ou même un peu avant, sur les campus américains, ça avait démarré. Il faut bien savoir que ça démarre avec les hippies à Berkeley et compagnie.
Mais ça se passe
au même moment. Il y a une révolution à Prague, donc c'est au fond, c'est très intéressant, et ça arrive de temps en temps dans la vie, c'est un syncrétisme. C'est-à-dire qu'il y a des convergences de quatre coins du monde qui font que c'est la même idée qui est en marche, c'est-à-dire en gros,
ouais, mais
on fait tomber l'autorité.
Ça n'a pas pété de la même manière partout.
Non, c'est bien sûr.
Alors pourquoi la France a été ce point de
choc ? Parce que la France a un héritage révolutionnaire, d'abord. Parce que la France, à l'époque, en tout cas, avait des étudiants intelligents, cultivés, qui réfléchissaient.
Pourquoi le « à l'époque »
Parce
qu'ils ça s'est bien arrêté, quand même.
Ça ne va pas arrêter de faire des généralités comme ça.
Comparons pas. C'est pas la peine.
Non, mais c'est
pas la peine de comparer.
Il n'y a pas de comparaison possible.
Et parce que il y avait, au fond, c'était les 30 Glorieuses, tout allait bien. Comme tout allait bien, pour eux, tout n'allait pas bien. Par exemple, et ça démarre comme ça, à Nanterre, les garçons n'avaient pas le droit d'aller dans les collèges des filles.
Ça démarre avec les garçons qui n'ont pas le droit, vous avez raison, d'aller au collège des filles. Ça démarre avec la piscine.
Oui.
C'est-à-dire que si on résume, si on dit que mai 68 ça a démarré parce que les étudiants à Nanterre n'avaient pas le droit d'aller à la piscine en même temps que les filles, il y a des horaires précis.
Et là, le mythe de l'étudiant intelligent en prend un
voilà,
coup.
Voilà, c'est ça.
Ça démarre aussi avec, c'est annoncé 3 mois avant avec la chinoise de Jean-Luc Godard,
ouais.
Et avec un papier extraordinaire dans le journal Le Monde, Pierre Vianson-Ponté, qui dit « La France s'ennuie ouais. ».
Qui reprenait Lamartine, vous dites.
Oui.
D'ailleurs, c'est le pont avec Lamartine, un siècle avant, qui disait en
1848,
la France...
Nous sommes dans les 30 Glorieuses, tout roule, sauf que la jeunesse, elle va pas aussi bien que ça, elle aime pas ce qui se passe parce qu'elle est trop dominée. Et elle refuse la domination.
Donc dès que quelqu'un dit que la France s'ennuie, c'est-à-dire Lamartine avant la révolution du 19e siècle, c'est un éditorialiste, un journaliste
Vincent-Ponté,
ouais.
Grand journaliste.
Grand journaliste, excusez-moi.
Voilà, c'est là où on voit que vous êtes des gamins. Ça a été un des plus...
Bon, écoutez, j'ai parlé de Lamartine, vous pouvez pas me le dire.
Moi je parle de Platon, ça marche ou pas ?
Voilà, c'est bien, voilà, chacun sa référence.
Vincent était un type formidable, très grand éditorialiste, une des grandes figures du monde de l'époque, et il termine son papier, La France s'ennuie, en disant, tout ça va nous amener à des bousculades. Donc il annonce la bousculade. C'est un peu plus qu'une bousculade entre nous.
Alors justement, c'est une révolution ou c'est une un mouvement pour vous ?
Ça a un air.
Dans le livre, vous servez beaucoup du mot mouvement plus que de révolution.
Je préfère, oui. Ouais. Ben oui, une révolution, ça se termine par les têtes qu'on coupe et par le roi qu'on déquille. Il a failli être déquillé, cela dit, 2 ans plus tard, De Gaulle.
On parle de De Gaulle, oui.
Est parti. Et puis il y a beaucoup plus de sang dans une révolution. Là, il y a eu quelques victimes, mais très très peu.
Mais pas en mai.
Un peu plus tard, en juin.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et donc, le mot révolution, au fond, c'est un mot qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui change. Et donc, c'est aussi un mouvement. Mais le mouvement, c'est quoi ? C'est la vie. Donc, c'est un moment de la vie de la France, c'est un tournant. Et c'est un tournant sociétal. C'est-à-dire, selon moi, mai 68, c'est effectivement la perte de l'autorité, du discours magistral, du rapport parent-enfant, du rapport maître-élève, du rapport dominant-dominé, du rapport ouvrier-syndicat, parce que...
Bourgeois.
Au passage, grâce à mai 68, grâce aux étudiants, la classe ouvrière a gagné énormément. Hein.
La bande originale, les meilleurs moments, sur France Inter.
Hop, qui veut du rire ? Attendez, je regarde ce que j'ai en magasin. Ah, désolé, j'ai que ça. Marina Rollman.
J'en peux plus, les moches. Mais oui, je suis à bout, les gens sont trop méchants. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, parce que c'est vrai, dans la vraie vie, tu passes soit du temps avec des gens que tu aimes bien, soit des gens qui te payent. Donc que ce soit avec Leïla ou Nagui, je sais rester civile. C'est pas du tout le cas sur Internet. Alors oui, prendre le pouls de l'époque sur Internet, c'est consulter les gens les plus énervés, qui ont le plus de temps à perdre et qui parlent souvent pour rien dire.
Clairement.
Et c'est pas en causant avec Nadine Morano qu'on peut reprendre foi en l'humanité. Mais voilà, je m'ennuyais. Samedi, j'étais au mariage d'un pote à Londres, et bon, sa grand-mère était en train de me casser la tête, je sais pas quoi, comment elle était à la tête du Commonwealth, c'est que Churchill il faisait du bruit en mangeant et qu'ils auraient jamais dû rendre l'Inde, etc. Et j'étais là, oui, Madame d'Angleterre, moi, elle avait déjà raconté tout ça au mariage de William. Et là, elle me dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, viens, on lance une chenille. Bon, elle avait un petit peu forcé sur la nisette et je lui dis, écoute, lisons ce soir, pourquoi pas, mais là, Meghan, elle est quand même en train de marcher vers l'hôtel, attendons déjà de voir s'ils se disent oui. Et donc, pour la calmer, je commence à lui montrer des vidéos sur YouTube. Des loutres qui se tiennent la main, un best-of d'Europol, des petites chroniques d'Inter, enfin voilà, des choses qui font un peu le sel de l'époque, tu vois. Et par hasard, je commence à regarder les commentaires. Mais on est foutus, en fait.
Carrément.
Ah non, mais il faut qu'on s'euthanasie tous autant qu'on est là. C'est d'une violence qui se joue sur Internet. Alors attends, je dis pas que c'est nouveau. Hein. Peut-être qu'au 17e, les gens, ils étaient là, quand ils s'engueulaient, ils s'embrouillaient, ils étaient là, hey, ta mère la huguenote, elle traite des chefs chez le vicaire, je sais pas. Mais là, ce qui est dingue, c'est que on ne se connaît pas. Et on se jette des trucs à la gueule, mais tellement vénère. Mais les humains, on a pris une de ces confiances. D'où, quand on n'est pas d'accord, on crie sur des inconnus comme ça, on traite leur mère, leur lignée sur 8 générations. En vrai, ce qui nous sépare de l'amibe, c'est le rugby à 7 et les soufflés au fromage. Pour le reste, je veux dire, faut arrêter, quoi. On est juste des petits animaux qui devraient s'émerveiller du miracle constant de la vie, de la beauté du monde, du fait qu'on existe à une époque où on a accès non seulement à Whitney Houston, mais également au Riolet. Je veux dire, juste ces deux choses-là, c'est déjà assez pour aller bien. Tu vois ce que je veux dire? D'où on utilise ce tout petit moment qu'on a ici pour dire à des gens qu'on connaît pas, parce qu'ils ont pas le même avis que nous sur le point de croix ou les clafoutis, que c'est des demeurés du cul qui devraient aller scotériser les gonades. Enfin, je veux dire, c'est, Alors, dans l'autre sens, c'est vrai que c'est un peu l'époque qui veut ça, parce que dans l'autre sens, l'hyperbole, elle est aussi présente pour les compliments. Tu vois, sur Internet, tu peux lire des trucs du genre, oh là là, le mec qui a inventé les Doritos, c'est un génie! Oui, alors disons, c'était bien vu. Et c'est mieux que de monter un réseau de prostitution de mineurs, mais disons, bon, génie non plus. Le mec des chips au vinaigre, ça, là, oui, alors là, oui. Et donc, je me suis rendu compte, finalement, que ce côté hyperbole, positif ou négatif, c'est sur Internet, tout ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est là, elle est courte et il faut en profiter. Alors, du coup, j'ai posé mon téléphone, j'ai pris Elisabeth par la main et je lui ai dit, c'est toi qui as raison, Yoda, aimons-nous pendant qu'il est encore temps. Et je l'ai invité à danser sur ça.
Bravo.
Ah oui.
Ah bah, évidemment. Elle est pas en forme.
Non, là encore un peu.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Oh, j'ai besoin de talent, j'ai besoin d'élégance. Bon, je vais y aller moi-même. On croyait tout savoir sur Jérôme Cahuzac. En fait, non. C'est ça qui est bien avec les héros, c'est qu'en grattant un peu, on trouve toujours quelque chose. Connu pour avoir planqué un peu plus de 600 000 euros à Singapour. Ah, les charmes de l'Asie. Plus quelques billets en Suisse. Rappelez-vous du grand Jérôme de l'époque qui se défendait avec tellement de panache et d'émotion devant les députés. Les yeux dans les yeux. Je vous le dis. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Alors on connaissait Jérôme l'escroc fiscal, mais on ne connaissait pas Jérôme l'ami des bêtes. Figurez-vous qu'à une époque, la famille Cahuzac servait de famille d'accueil à un gentil bébé labrador destiné à devenir chien guide d'aveugle, un gentil toutou prénommé Bucky. Jérôme s'attache à Bucky, mais le problème, c'est qu'arrivé à l'âge de 18 mois, Bucky doit aller bosser et assister à un mâle ou non voyant. Déchiré à l'idée de perdre Bucky, Jérôme a élevé Bucky, l'enlève et le planque dans sa maison du sud-ouest, prétextant l'avoir perdu au cours d'une promenade. Non mais le gars, avant de gruger les impôts, il avait volé un kleps, un chien d'aveugle en plus. Le mec, il volerait une tétine à un orphelin. En même temps, il a une ligne de défense tellement géniale et originale à la fois. Je l'imagine face aux dirigeants de l'association des chiens guides d'aveugles. Monsieur Cahuzac, c'est bizarre quand même. On vous confie un chien destiné à aider les personnes malvoyantes et d'un seul coup, il disparaît. Il aurait, selon vous, fugué. Je ne vous cache pas que nous avons quelques soupçons. Qu'avez-vous à nous dire et à nous répondre surtout, monsieur Cahuzac? Les yeux dans les yeux. Je vous le dis, je n'ai jamais volé de chien d'aveugle prénommé Bucky que j'aurais caché à la campagne dans l'ancienne bergerie. Ni maintenant, ni avant. Bon, pareil, il a régularisé la situation, mais sans dire long sur le personnage quand même. En même temps, c'est capable de tout un mec qui vole des chiens d'aveugle.
Je suis tellement déçu, Jérôme. Le facteur m'a dit que tu couchais avec la voisine Martine à tous les vendredis à 15h pendant que je suis à mon cours de Zumba. Tu es un monstre, Jérôme. Tu as tout gâché. Oh mon Dieu, mais dis quelque chose. Enfin, dis-moi que c'est pas vrai, que ces salauds de la poste sont tous des menteurs.
Les yeux dans les yeux. Je te le dis, je n'ai jamais eu de rapport sexuel debout vite fait contre le canapé avec Martine, façon chien-chien et son slip en cuir mauve. Ni maintenant, ni avant. Le pire, c'est ça, c'est quand on se met à mentir à sa famille. Mentir à ses voisins, c'est pas bien, c'est moins grave, mais c'est pas bien quand même. En même temps, on peut s'attendre à tout de la part d'un mec qui vole un chien d'aveugle. Monsieur Cahuzac, je sais pas si vous avez entendu, mais hier soir, c'était l'enfer. Il y a un gars qui écoutait de la musique de merde toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. C'est pas vous, j'espère. Les yeux dans les yeux, je vous le dis. Je n'ai jamais écouté hier soir entre 21h et 5h30 du matin ma collection best-of de Taratata. Ni maintenant, ni avant. Ce type n'a aucun respect pour rien. Oui, en même temps, t'es capable de tout quand t'es capable de voler un chien d'aveugle, merde! Malheureusement, les amis, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Un best-of réalisé par Marie-Annick Rimbaud. Mais je vous rassure, nous serons de retour dès lundi avec François Damiens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes, l'émission préférée de Marlène Schiappa et de Ozzy Osbourne.